Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous irons à Saint-Malo, au Sénégal, en Tunisie et dans un monde complètement réenchanté. Le festival Étonnants Voyageurs se tient tout le week-end à Saint-Malo en France. Il réunit de très nombreux auteurs francophones, dont le Sénégalais Mohamed Mougarsar, qui vient de recevoir le prix Littérature Monde, édition 2018, pour son roman Silence du cœur. Il est sur notre plateau pour un autre livre, son dernier roman De purs hommes, qui raconte l'homophobie au Sénégal. Il sera question d'une pièce de théâtre avec l'un des maîtres du genre. L'écrivain à succès Laurent Godet revient au théâtre avec un texte fort sur les printemps arabes. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Laurent?
Mais très bien.
Et les colosses, ça va, écoutez, un colosse, hein? On est tous des colosses. Les colosses tomberont. C'est le titre de votre nouvelle pièce de théâtre publiée aux éditions Actes Sud Papier. Elle sortira en librairie le 23 mai. Merci pour cette avant-première Laurent.
Merci à
Qu'est-ce
vous.
Qu'est-ce qu'il reste de ces colosses des printemps arabes?
Je pense la joie profonde de l'avoir fait, ce qui n'est pas rien en fait, même si le bilan est parfois plus difficile à faire de manière euphorique. Il y a eu quand même ce moment beau de suspension et de rage des peuples qui ont pris la parole.
Là, c'est les révoltes, mais les colosses.
Ah, les colosses. Les colosses, ils s'en sortent toujours un peu mieux. Les colosses. Ils restent, quelques-uns sont encore au pouvoir.
Exact. Ouais. Bon, nous verrons cela avec vous tout à l'heure. Décryptage des printemps arabes avec l'excellent Laurent Godet. Et puis, nous vous proposerons de réfléchir à un réenchantement de la vie. Et si nous décalions la réalité, si nous réinventions tout ce qui gravite autour de nous, la scénariste et romancière belge Odile Doutremont publie un premier roman réjouissant, plein de fantaisie.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, quatre libraires nous accompagnent pour cette émission. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse, vous êtes libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Tout va bien Dominique?
Tout va bien.
Bon, vous ne râlez pas trop dans votre librairie?
Si, je continue. Si,
tout le temps. La râleuse du groupe, c'est bien. Continue comme ça. Pour le Canada, nous accueillons une nouvelle libraire, figurez-vous. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans la librairie francophone. Vous êtes à Montréal, dans la librairie du Square. Où êtes-vous, Josiane? Que voyez-vous à travers votre vitrine?
Alors, à Outremont, ce qu'on voit à travers la vitrine, c'est beaucoup de gens qui passent, en fait, des gens qui s'arrêtent, heureusement. Et en fait, dans cette librairie qui est ouverte depuis bien trop 7 mois, on est très enthousiastes et on est très contents de s'y être installés.
7 mois, oui, toute jeune librairie, d'accord.
Tout à fait.
Bon, on vous soutient, on vous accompagne. Alors, bonne chance à la librairie et soyez à nouveau la bienvenue. Merci Josiane. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France cette semaine, vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la très belle librairie Goulard.
Exactement.
Sur le cours Mirabeau. Très célèbre. Et en Belgique, c'est le retour d'Annick Dor. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe,
bonjour,
vous
Mathieu.
Toujours dans la librairie de la Mazrine.
Tout à fait.
Exact.
C'est tout à fait.
Bon,
exact.
Merci à tous les quatre. Vous restez bien sûr avec nous tout au long de cette émission. Bonjour Mohamed Mougarsar.
Bonjour.
Vous venez d'obtenir le prix Étonnant Voyageur qui vous est remis à Saint-Malo ce week-end. Samedi prochain, vous serez aux Assises internationales du roman à Lyon, à la Villa Gilet, et vous publiez votre troisième roman dont nous parlerons tout à l'heure. Mais on commence toujours cette émission par une histoire personnelle. Anecdote que je découvre en même temps que tout le monde. C'est vous qui avez cette lourde charge. Laurent Godet a déjà fait cet exercice.
Il m'a d'ailleurs averti en me disant que c'était un exercice redoutable.
Ah, c'est vrai.
Je dois dire que je découvre moi-même l'anecdote en la racontant. Il y a quelques jours, j'étais au Sénégal et comme souvent, je retourne au village où sont nés mes parents. Et on m'a raconté, comme assez souvent aussi, des anecdotes sur mon grand-père, celui dont je porte le nom, Bougar. Et j'ai appris là que d'une certaine manière, si je tente de devenir écrivain, c'est par sa faute ou grâce à lui, je ne sais pas. Mais il paraît, parce qu'on disait que c'était un devin, un homme qui avait eu de la science, il a dit à un moment donné que sa descendance sera très pauvre, mais qu'il y aura des gens de l'écrit et du papier. Ouais. Donc je l'ai appris à ce moment-là et ça m'a fait très drôle. Pour l'instant, il a tout à fait raison. Je suis une personne qui tente d'écrire.
Pauvre.
Et je suis très pauvre, donc c'est parfait.
C'est ça. Bon, on vous espère riche très bientôt avec tous ces prix parce que vous êtes couronné, vous êtes un tout jeune auteur. Avec nous, il y a Saad Sarr, surnommé le James Brown sénégalais. Bonjour Saad.
Bonjour.
Vous jouerez un titre dans notre studio tout à l'heure. Nous allons vous faire découvrir au public francophone du monde entier. Et vous vous connaissez tous les deux?
Oui, effectivement.
Car vous êtes cousins? Ouais, éloigné.
On veut dire oui.
On peut dire ça.
On dit qu'on est des cousins éloignés, en plus, voilà. Bon, c'est la famille et c'est le même nom de famille.
C'est le même nom de famille.
C'est le même nom de famille. Il y a beaucoup de Sahar au Sénégal, de toute façon.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de Sahar au Sénégal.
Voilà. Et c'est le hasard de la programmation. Vous voyez, les hasards de la vie, c'est incroyable. Vous vous retrouvez, vous connaissez, c'est magnifique. Et on vous entendra, on écoutera un extrait de votre album, Saad. Mohamed Bougar Sahar et Saad Sahar sont dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Odile Doutremont.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une scénariste et romancière belge. Vous venez vous aussi de décrocher un prix en France, le prix de la Closerie des Lilas, avec ce premier roman, Les Déraisons, paru aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre captivant sur l'histoire d'un couple qui réenchante la vie. Vos deux personnages vivent des drames. Adrien est mis au placard dans son entreprise, alors que Louise tombe gravement malade. Et au lieu de s'effondrer, il réinvente la vie.
Absolument. C'est bien résumé.
Vous réinventez la vie vous-même ou pas?
Bon, j'essaye. Dans la petite mesure de mes moyens, c'est plus facile de la réinventer en fiction qu'en réalité. Je fais mon petit possible.
Mais c'est une philosophie de vie, ça, non?
Oui, j'ai le sentiment profond que l'imagination, c'est l'expression fondamentale et essentielle de la liberté. C'est ce que j'ai un peu voulu raconter dans ce livre.
Et ça nous sauve parfois.
Absolument.
Ouais. C'est une histoire assez triste hein, quand même, Odile. Très dure, mais pleine de fantaisie, pleine d'humour quand même. Pendant un an, Adrien va quitter son travail, sans rien dire à personne, pour s'occuper de sa femme qui tombe malade. Et il va quand même toucher son salaire. Et le pire, c'est que personne ne s'en aperçoit.
Oui, ça c'est une histoire que j'ai lue dans un journal. En fait, je suis partie de cette anecdote, entre guillemets là, qui est assez terrifiante, je trouve. C'est qu'on peut arriver aujourd'hui, en 2017, dans des entreprises à laisser des gens disparaître sans le réaliser. Des employés qui deviennent des employés fantômes, en fait. Mmh. Et au départ, l'article que j'avais lu mentionnait un homme qui avait disparu de son entreprise pendant 5 ans, sans qu'elle le réalise. Et puis moi, je l'ai réduit à 1 an, parce que je me suis dit que la réalité dépasse... Enfin, je voulais pas que la réalité...
Dépasse parfois la fiction, ouais. On ne vous aurait pas cru, ouais, sûr. 5 ans, ça aurait été moins crédible.
Ouais, absolument. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, parce qu'on m'a rapporté des histoires de cas qui sont bien pires que ça. À Quimperlé, par exemple, dans un hôpital, récemment, ils ont réalisé qu'ils avaient payé un médecin pendant 20 ans pour... Pour n'avoir jamais été là, et pour n'avoir pratiqué absolument rien.
Mais c'est ce que vous appelez les oubliés, ces invisibles comme ça dans les grandes entreprises. Et il y a plein de thèmes hein, dans votre livre, mais vous montrez aussi que dans ces grandes entreprises, tout le monde se fiche de vos problèmes, et à la moindre faiblesse, on vous achève.
En tout
à condition qu'on vous retrouve.
Oui, c'est ça. Mais le personnage d'Adrien est un type qui travaille bien, mais il n'a pas beaucoup d'ambition. Comme beaucoup de monde dans les grosses entreprises, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sans grande conviction, qui travaillent par nécessité. À partir de là, quand il y a mieux à faire à côté, en l'occurrence c'est le cas chez Adrien puisque sa femme découvre qu'elle est malade d'un cancer des poumons et il se dit qu'il est inutile dans son entreprise et se dit au fond à quoi bon être inutile dans un endroit si je peux être utile ailleurs.
Ouais, c'est ça. On vous a demandé de choisir la BO de votre roman Odile Doutremont, la musique qui illustre le mieux votre histoire et vous avez choisi le groupe Lady Sœur, Le Temps Passe. Mm-hmm. On écoute un extrait, vous nous expliquez.
Le temps passe. Passons pas trop vite, le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas, et que le réveil ne sonnait pas. Comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil roulait des doigts, et que les étoiles ne brillaient pas.
Pourquoi ce titre, Odile?
Alors pour plusieurs raisons, la première c'est que j'ai écrit Les Déraisons avec une vraie bande son que j'avais, j'ai toute une série de playlists dans mon...
Et vous en citez d'ailleurs des titres dans le livre.
Et j'écris en musique moi, j'écris dans des cafés et pour m'abstraire du bruit ambiant, je mets des écouteurs et j'écris en musique.
Mais alors pourquoi Gaëtan Roussel et Rachida Brakni hein, parce que ce sont eux qui sont dans le groupe.
Oui, parce que vous m'avez demandé de choisir une musique. Alors, ça s'appelle Le Temps Passe, et dans l'histoire, Louise va mourir, elle le sait, c'est annoncé dès le début du roman. Et il y a cette espèce d'urgence à vivre, et quand il y a une urgence à vivre, Je pense que le curseur de la réalité est complètement déplacé. Et elle, pour le coup, y met toute l'énergie, la force et l'humour qu'elle peut y mettre. Voilà. Et donc,
Elle dit des choses très émouvantes d'ailleurs. Elle dit « Même si je le voulais, je ne saurais pas où aller chercher les larmes. Je pleure pour les autres, pour moi, j'invente. »
Oui, c'est ça.
Alors, elle a un refuge comme ça pour surmonter les drames de sa vie. Elle invente, elle réinterprète les situations. Elle imagine par exemple que ses médicaments sont des personnages à qui elle fait visiter la maison. Elle attribue une voyelle à chaque journée, voyelle par laquelle il faudrait terminer nos phrases. J'ai essayé, c'est pas simple.
Non. Moi aussi.
Elle ne sait pas cuisiner, donc elle peint comme ça ses plats idéaux. Et puis son chien s'appelle le chat.
Voilà. Exactement.
Tout change.
C'est une femme qui a, comme nous tous d'ailleurs, qui a vécu une enfance particulière. En l'occurrence, la sienne a été assez traumatisante. Ouais. Et c'est une résiliente. Elle invente. On lui a menti quand elle était petite sur la mort de son père. Elle le découvre. Et donc, quand elle le découvre, elle n'a que 9 ans. Donc, elle décide de réinventer à la fois sa réalité, la réalité et sa vérité.
C'est vraiment très joli, hein, Odile, vraiment. Hein, c'est très émouvant. On va voir si les libraires sont d'accord avec moi. Il y en a 4. Les 4 ont lu votre livre. Vous avez une chance sur 4 d'être, une chance sur 4, ça dépend. d'être un peu critiqué. On commence par la Belgique avec Annick Dore. Quel est votre avis sur ce roman, Annick?
Ah ben moi j'ai trouvé que c'était une magnifique histoire d'amour décalée, fantasque, singulière, et j'ai trouvé que c'était un tour de force de parvenir à mêler un univers fait d'espièglerie et de loufoquerie et de le mêler à la maladie, au monde rigide de l'entreprise. Donc je trouve qu'on a des univers complètement différents à l'opposé les uns des autres et qui font un seul roman qui au final est à la fois touchant, allègre, vif, dramatique, rafraîchissant. Et donc voilà, moi c'est un livre qui m'a surprise au départ et puis qui m'a vraiment ensuite embarquée.
Ouais, je suis complètement d'accord, très surprenant. Mathieu Colombe, en France, êtes-vous d'accord, vous ?
Oui, plutôt, d'autant plus qu'à la sortie de l'hiver, on a besoin d'un petit peu de couleur et de quelque chose de pétillant, et je pense que ce livre est vraiment tout désigné, parce que effectivement, comme on l'a dit, puisqu'il part d'un postulat qui n'est pas forcément joyeux, il arrive avec son style et ses personnages à un résultat qui est complètement différent, et en plus il offre une devise complètement camusienne qui est devant l'absurde de la vie, autant en profiter un maximum.
Ouais. Alors ça peut être vite fatigant ou lassant, mais nous, lecteurs, on se laisse prendre au jeu, on se dit que si on se mettait à voir la vie comme ça, ça aiderait. Mais la fantaisie, Odile d'Outremont, ça marginalise.
Oui, et alors ? Enfin, moi, je considère ça comme une force.
Mmh. Vous qui venez d'une famille très célèbre, noble, belge.
Célèbre, non.
Enfin, noble, grande noblesse belge.
C'est pas la même chose. Oui.
Certes. Est-ce que cette fantaisie, elle passe ? Ou elle passerait ?
Alors, moi, j'ai pas du tout été éduquée dans cet esprit-là. Donc, moi, j'ai des parents qui sont... Enfin, voilà, j'ai pas été éduquée là-dedans du tout. Et mes parents, oui, sont et étaient, quand ils ont eu la lourde charge de m'éduquer, très ouverts, très légers, incroyablement tolérants. Il y a une vraie légèreté, il y a une vraie légèreté chez nous, oui. Mais qu'il n'y a pas forcément toujours dans... Voilà, chez nous, il y en avait une.
Dans les familles nobles, c'est ça que vous voulez dire. Chez vous, oui. Ah oui, donc voilà, oui, c'est ça, oui, ça vient de là aussi.
Oui, oui. Bon. Non, j'ai grandi dans la joie.
Allez, Dominique Bressou, pour la Suisse.
Moi, j'aime qu'on me raconte des histoires, et là, j'ai été vraiment servie. C'est bien plus, en fait, qu'une belle histoire. Et j'ai été fascinée par cette sorte d'échange d'épaisseur du personnage entre Louise et Adrien. Parce qu'elle était fée, elle devient lucide, et son personnage prend une bien plus grande ampleur. Et c'est comme si la maladie décidait de redistribuer les rôles. Et ça, c'est pour moi le nœud de l'histoire, mais c'est une très très belle histoire.
Bien, ça fonctionne bien pour vous, Odile. Josiane Letourneau au Québec, on va voir si vous faites l'unanimité. Un avis positif ou négatif, Josiane ?
Ah ben c'est pas de moi que va venir un avis négatif. En fait, je trouve que c'est un roman qui a une plume tellement versatile, appliquée, vive et humour qui surgit. Vraiment, j'ai été charmée.
Charmée. Voilà, carton plein, Odile d'Outremont.
Ça s'est bien passé, j'ai bien fait de prendre le Thalys.
Ce n'est pas fini, on va terminer quand même l'entretien si vous voulez bien. Je vous continue mes questions, vous voulez partir tout de suite. Bon. Adrien vit son procès, parce qu'il y a un procès, parce qu'on lui reproche comme ça d'avoir encaissé les salaires. Oui. Et il vit avec la même fantaisie que Louise, ce procès-là. Il reconnaît tout, il agit bizarrement face à la cour. Et quand le juge lui demande ce qu'il faisait de ses journées, il dit « on dansait ». Alors son avocat est complètement atterré, il lui dit « Pour les audiences à venir, il va falloir être plus pragmatique, on s'en fout que vous dansiez avec votre femme !» Et c'est le seul qui n'a rien compris, c'est l'avocat, parce que le juge, lui aussi, est plein de fantaisie.
Oui, le juge est un des personnages, personnellement, que je préfère. Ouais. J'ai adoré l'écrire. Soudain, il peut se permettre d'entendre la possibilité de voir et de juger autrement.
Le 22 mars 2016, tout s'arrêtera dans votre livre. La date n'est pas un hasard, Odile.
La date est... c'est marrant. Maintenant que vous... Oui, si, c'était tout à fait un hasard. Bon, et maintenant que vous me le dites, je me dis...
Mais c'est le jour, des attentats à Bruxelles.
Ah oui, c'est juste. Bah écoutez, c'était un hasard.
Vous n'avez pas réalisé?
Non, pas du...
C'est vrai?
Oui, je vous promets.
Incroyable. Bon.
Ouais.
Vous m'avez scotché. Merci Odile d'Autremont.
Merci, vous m'avez scotché.
Pas drôle, en plus j'ai trouvé ça très dramatique, moi, absolument terrible. Et j'ai dit, voilà, elle a le symbole comme ça, elle renvoie aux attentats, et finalement c'est assez malin. Et...
Non, comme quoi l'inconscient, de temps en temps.
Quelque part, oui. Bon. Merci beaucoup Odile d'Autremont. Votre premier roman, Les Déraisons, est paru aux éditions de l'Observatoire. On part en Afrique avec l'artiste Saad Sarr et avec l'écrivain Mohamed Bougar Sarr. On va laisser Saad s'installer... en studio. On va commencer en musique avec un titre acoustique joué donc à la guitare. Voici Diou. On prononce comme ça, je crois. Hein, Diou, exactement. Titre qui donne son nom à son premier album dans la librairie francophone Saad.
Deligo, utiko de jujak loi ramigo. Fujuba jakul, joge ufa fudundu jakul. Juba ngifa, fujuba jakul, joge ufa aim. Fujuba jakul, juba jugufa delol gina uriko. Deligo, ramigo utiko de moi samba, moi saler, moi sayon, jering ma utiko boy. Kon jorin yo kungane mo hars tank tu bay khamiko joliko utiko wa ai joliko utiko khamiko wa wa jujakhul joliko utiko de jujakhul khamiko jujakhul uligo khamiko de jujakhul joliko. Samwa jin bangana yoga juju mana sukhat mom susay jusi jui bari nama ya name nyu juju bake elel juba jurna khewal manji yermande dundal khol ye moy samba moy seler moy sayon ju ritmo sikon jori yot ganar mu khas tank tu bay mom. Jeliko, utiko wa bye boy. Jeliko, kiman utiko i hamiko wa wa. Juba jekuloi utiko de mongi wa. Juba jekul utiko de mongi wa. Juba jekul wari kumongi wa. Samta malaka na gamza maklo baba kala gamza makinongi kala gadi kumbay. Juba chekulo yunini uri vay. Juba chekul uri kumongi vay.
Saad avec Diou en acoustique, on peut applaudir, oui je t'en prie, dans notre studio et dans les conditions du direct pour la librairie francophone sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. Venez nous rejoindre Saad, je vous en prie avec votre verre d'eau qui aura fait l'aller-retour. Merci beaucoup. Merci Saad. Votre premier album est présenté à l'international, il s'appelle aussi Diou, ce qui en Wolof veut dire graine.
Ouais, qui veut dire graine, qui veut dire la semence aussi.
La semence, voilà. Graine d'espoir, graine d'amour.
Graine d'espoir, graine d'amour. Ouais. En fait, juste pour expliquer qu'en fait, on ne récolte que ce qu'on a semé.
Ouais.
Et que si on sème la vie, on récolte la vie.
On récolte la
vie. Si on sème l'amour, on récolte l'amour. Si on sème la méchanceté, on récolte la méchanceté. Et le message qu'on aimerait faire passer en chaque être humain existe de l'or.
Et c'est ça que vous chantez dans votre album. Toutes les chansons sont composées de ces valeurs humanistes. Et vous citez d'ailleurs Léopold Sédar Senghor dans des interviews que j'ai lues pour la presse écrite.
Ouais,
Senghor qui prédisait que le Sénégal allait entrer dans la civilisation de l'universel. Et vous dites que c'est pas le cas encore au Sénégal. Donc vous fusionnez les genres, vous fusionnez les influences.
Effectivement, moi je pense que l'être humain est déjà un être hybride, donc naturellement on est des êtres qui fusent plusieurs influences et de plusieurs identités depuis la nuit des temps, donc on peut juste faire un reflet que d'une mixité et d'un mélange.
Un mélange, voilà. Une identité plurielle et une musique métisse. Merci beaucoup. Votre disque Saad and the Natal Patchwork, c'est le nom de votre groupe, Jew, est donc disponible. Merci à vous. Laurent Godet, une réaction à cette musique ?
Ben, je suis d'abord tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que c'est effectivement une chose qu'il faut peut-être répéter sans cesse. La pluralité de nos sources à chacun d'entre nous. On voit bien que les idéologies autoritaires essayent toujours de nous faire croire que la source était unique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit culturelle. Et tout ce qui dit et redit que non, les sources sont plurielles et que nous sommes pluriels, à mon avis, est absolument nécessaire à entendre aujourd'hui. Oui.
On va continuer, on va rester en Afrique et on va parler de tolérance à présent.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Mohamed Mougarsar est avec nous dans la librairie francophone. Vous publiez De Purs Hommes aux éditions Philippe Ray pour l'Europe et le Canada et aux éditions Jim Sahan pour l'Afrique. Vous êtes l'un des invités des Assises internationales du roman à Lyon le week-end prochain à la Villa Gilet. Ce roman est une fresque qui analyse les comportements homophobes au Sénégal. Tout commence par une vidéo sur Internet.
Oui, et c'est une vidéo que j'ai eu le malheur de voir à une certaine époque. Parce que ce
qui a existé alors.
Qui a existé, qui a circulé dans les téléphones et en 2009. Une vidéo où on voyait des gens, une foule, aller dans un cimetière et déterrer un homme. Et on entend dans les commentaires de la vidéo que les gens font que cet homme était accusé d'être un homosexuel et que comme tel, il ne méritait pas de reposer dans un cimetière musulman. Et donc, c'est de là qu'est parti, d'une certaine manière, le roman. Donc, il y a très longtemps, avant même que je songe à écrire quoi que ce soit, c'est une image qui était déjà là.
Alors, il y a votre personnage, Ndéné, qui est à la fois choqué et en même temps indifférent, car c'est ce que l'on appelle au Sénégal, alors j'ai très mal prononcé, je vous laisse le faire peut-être,
un gourdigène.
Voilà.
C'est le nom générique par lequel on désigne les homosexuels, mais aussi toutes les autres formes de sexualité non hétérosexuelle, tout simplement. Mais c'est un mot qui littéralement signifie homme-femme. Donc au départ, si on veut être très précis, ça désigne surtout le phénomène du travestissement. Mais il a fini par désigner l'homosexualité et les homosexuels, et par devenir un terme assez péjoratif.
Il est enseignant en littérature à l'université, votre personnage, résigné, dit-il, à la médiocrité ordinaire de l'université de son pays. Et il découvre, par un collègue, que le ministère interdit désormais l'étude des auteurs supposés homosexuels, dont Verlaine, suite à cette vidéo.
Oui, alors ça, je suis peut-être un peu dur avec l'université de mon pays, mais des événements récents et assez malheureux, d'ailleurs, ont prouvé que parfois, elle est dans des travers assez terribles. Et c'est un de ses collègues qui lui apprend en effet que le ministère a décidé que suite à une série de scandales qui impliquaient des homosexuels ou la question de l'homosexualité, et suite à un durcissement des opinions sur cette question, il fallait éviter d'enseigner un certain nombre d'auteurs, dont Verlaine. Il se trouve malheureusement que ce jour-là, Ndéné sortait d'un cours avec des étudiants de master endormis, et il leur avait enseigné un poème, il avait commenté avec eux un poème de Verlaine.
Voilà. Et ça n'avait pas posé de problème.
Ça n'avait pas posé de problème jusque-là.
Jusque-là. Cette vidéo va vraiment faire réagir toute la société sénégalaise, y compris la mosquée, où son père remplace l'imam, parce que l'imam est malade, et son père va condamner non pas la vidéo, mais les homosexuels dont la place est en prison. Ce sont, je cite, des pécheurs, des criminels dont la seule présence au sein de la société menaçait la cohésion et la morale, des êtres dont l'existence même constituait un crime contre l'humanité.
Eh bien, disons qu'au Sénégal, l'homosexualité est encore pénalisée. Voilà, il ne fait que, d'une certaine manière, être la voix de la loi. Mais ce qui est assez terrible, c'est que, condamnant ainsi les homosexuels, il n'est pas le plus dur, le plus radical.
Ouais.
Il a quand même la, je ne sais pas si c'est le cœur ou la bienveillance, de dire que tout ce qu'on peut faire pour ces homosexuels,
c'est de prier pour eux.
C'est de prier pour eux parce qu'ils sont, soi-disant, malades. Donc il faut prier pour eux. Mais le fait même de formuler cette prière-là fait de lui un suspect, oui, parce qu'on, oui, trouve qu'il n'est pas assez dur.
Pas assez radical.
Et c'est son rival pour l'imama qui finira par l'emporter, parce que lui est tout à fait absolument radical sur cette question.
Alors, il va parler de ça avec son fils, et il lui dira à son fils, chaque pays a des valeurs sur lesquelles il s'est construit. Nos valeurs ne sont pas celles-là, tout simplement. On ne peut pas les accepter comme quelque chose de banal. Mohamed, faut-il se poser la question des valeurs morales et du respect des traditions ? Doit-on essayer de comprendre, je pose une question un peu polémique, hein, mais doit-on essayer de comprendre les homophobes ?
Je pense qu'il faut essayer de les comprendre. En tout cas, comme romancier, j'essaie de les comprendre parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus complexe dans cette homophobie-là qu'une simple haine. Je pense que le lit de l'homophobie peut être également beaucoup d'ignorance, peut être un certain aveuglement, peut être une certaine peur aussi, surtout. Et je crois que qu'en faisant un travail de fourmi très précis, en interrogeant les gens, on arrive à remonter aux sources de cette homophobie-là. Donc moi, j'essaie de la comprendre. Je ne la juge pas comme romancier. J'estime que ce n'est pas tout à fait mon travail. J'essaie de montrer toutes les possibilités qu'il peut y avoir à une homophobie.
Mais évidemment, faut-il les accepter, alors ?
Je ne l'excuse pas, si c'est mon avis personnel que vous demandez. Il y a, oui, je crois, des progrès à faire sur cette question, en tout cas dans un certain nombre de pays, dont le Sénégal.
On va laisser la parole à nos libraires. Dominique Bressoux, pour la Suisse, vous voulez intervenir ?
Oui, alors moi je trouve qu'on pourrait lire et relire ce roman, mais non seulement pour la forme, pour la beauté de la langue et la fluidité du style, mais aussi pour le fond, parce que tous les tenants, les aboutissants du rejet de l'homosexualité dans la société africaine, ils sont disséqués. Et en fermant ce livre, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser que la lecture de ces pages pourrait faire évoluer sur ce sujet beaucoup de gens, même non-africains. Pour un livre aussi remarquable par son écriture que courageux par son sujet, on n'a qu'une envie, c'est de dire merci à l'auteur.
Josiane Letourneau au Canada, êtes-vous d'accord ?
Oh oui, en fait, dans ce livre-là, on a cette voix passionnée, sensuelle, expressive et revendicatrice. J'ai trouvé très intéressant de visiter le thème de l'homosexualité et de la fluidité sexuelle avec la culture sénégalaise comme point d'ancrage. On est quand même frappé par cette peur de la minorité, de la marginalité. Je dirais plus encore sur l'impact de cette peur dans la négation de soi. Et les moments de réflexion qui sont nés pendant la lecture de ce livre ont été nombreux. J'en suis sortie préoccupée par l'impasse de la censure encore possible à notre époque et aussi par le fléau de l'obscurantisme religieux face aux questions sociales, en fait.
Alors c'est vrai qu'on s'interroge, Mohamed Bougarsar, parce qu'à certains moments, on se dit que vous expliquez tellement l'homophobie que vous l'excusez peut-être un peu de temps en temps. Votre personnage, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, polémique qui va forcément faire réagir, et de toute façon, quand on parle de ce sujet, ça fait réagir. Anne Déné dira à sa compagne Rama, qui elle est bisexuelle, que l'homosexualité féminine est moins choquante pour lui que l'homosexualité masculine. Et il explique très calmement, très tranquillement, en disant qu'il est homophobe par passion esthétique.
Oui, mais c'est
et vous semez le trouble, Mohamed, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on pense de ça, quoi.
C'est un mec, voilà, c'est un homme avant tout, ouais. Et que d'une certaine manière, lorsqu'il dit « j'excuse l'homosexualité féminine par passion esthétique », il ne fait que projeter ses désirs, ouais, comme homme. Donc c'est une sorte de machisme qui perdure, ouais, mais ça ne doit pas aller trop loin. C'est-à-dire que je l'excuse jusqu'à un certain point, jusqu'au point où, évidemment, on parle de jouissance et de corps et de sexualité et de génitalité. Se rendre compte que les femmes peuvent s'aimer et se donner du plaisir sans l'homme, évidemment, là, c'est moins excusable et moins, ouais, facile à accepter.
Mais c'est vrai qu'on entend souvent des hommes dire « moi, deux homosexuels, ça me dégoûte ».
Oui, malheureusement, voilà, ce sont des propos que l'on entend.
Et ce sont des propos courants qu'on entend régulièrement,
oui,
et qui sont excusés en plus.
Vraiment, je tiens aussi à le dire, parce que souvent, c'est vrai que ça a pour cadre le Sénégal, ça a pour cadre le continent africain, ouais, mais en Europe, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de difficultés sur cette question-là, et je tiens à le rappeler toujours.
Notre libraire français, Mathieu Colombe, a été séduit, je crois, par le livre.
Oui, complètement. À l'instar de mes petits camarades, effectivement, la force de votre écriture m'a frappé, parce qu'elle est vraiment sur un fil tendu, elle est très puissante. Ensuite, je pense qu'avec une plume pareille, on peut écrire n'importe quoi, le lecteur suivra toujours, parce que c'est vraiment magnifique. Et en plus, c'est vrai que votre thématique principale, qui est vraiment très courageuse, est traitée vraiment de manière absolument parfaite. Et je pense que c'est un coup de maître.
Eh ben, dis donc, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Annick Dore pour la Belgique. Allez-y.
Bah oui, moi je vais
un
dans
peu
le
de
même
critique
sens,
quand même. Ouais, ah oui, non, bon, alors. Bah non, mais faites-vous plaisir aujourd'hui, hein, moi je dis. Allez-y.
Non, moi j'avoue que je fais cette émission pour découvrir des romans vraiment comme celui-ci. Pour moi, c'est un super coup de cœur. C'est un livre bluffant, il a une intensité absolument incroyable. Et selon moi, l'intérêt réside surtout dans le fait que vous présentez une multitude de points de vue sur l'homosexualité. Donc c'est très riche, c'est très complet. Et voilà, et on assiste à, entre autres à la progression de la réflexion du narrateur qui devient de plus en plus lucide. Et voilà, moi j'ai refermé le livre en me disant que c'est intelligemment mené et que par moments, c'est vraiment totalement bouleversant.
Félicitations Mohamed Bungarsar. Vous avez l'avis des libraires comme Odile d'Outremont. Vous avez l'unanimité aussi. Ndéné va alors enfin se révolter face à ce déluge homophobe. La raison va l'emporter. Il fera une analyse assez intéressante. Il pense que les homosexuels appartiennent de plein droit à l'humanité pour une simple raison. Ils font partie de l'histoire de la violence humaine. Et il dit « J'ai toujours pensé que l'humanité d'un homme ne fait plus de doute dès lors qu'il entre dans le cercle de la violence, soit comme bourreau, soit comme victime. »
Oui, ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'assume personnellement comme propos. Je pense que de plus en plus, il faut aussi commencer à prendre malheureusement l'humanité par ce bout-là. Je crois que plutôt que par l'amour, évidemment, moi je souhaiterais que ce soit toujours par là. Mais aussi, il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai l'impression en tout cas qu'on est aussi homme parce qu'on est exposé à la violence, qu'on peut la subir à tout moment et qu'on peut malheureusement aussi la commettre à tout moment, il ne faut pas l'oublier.
Et puis parfois, sans qu'on s'y attende, de façon improbable, on peut changer notre regard sur l'autre en vivant soi-même une attirance différente. Vous le démontrez, on ne va pas tout raconter. Oui. Mais ça peut arriver.
De toute façon, tout le roman,
à tous les hommes et à toutes les femmes.
C'est l'évolution. Disons, c'est la réflexion de cet homme-là, c'est l'odyssée de Ndéné, oui. Intérieure. Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Mbougarsar. De Purs Hommes est paru aux éditions Philippe Ray et aux éditions Jim San. Vous êtes au festival Étonnant Voyageur ce week-end à Saint-Malo pour recevoir le prix Littérature Monde 2018. Félicitations. Merci. Et vous serez à Lyon samedi prochain pour les Assises internationales du roman. On sera d'ailleurs tous les deux, et pas que tous les deux, sur la grande scène pour une conférence sur la France. Francophonie. Merci beaucoup, à bientôt. On reste sur le continent africain avec la nouvelle pièce de théâtre de Laurent Godet, un petit détour par Saint-Malo avec Michel Lebris et une surprise et les coups de gueule et coups de cœur de nos libraires. Avant cela, voici pour la première fois dans la programmation musicale de la librairie francophone, la chanteuse franco-canadienne Mylène Farmer avec ce titre Bleu Noir. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Je marche vers les me dit quand même ça vaut la peine. Et qui peut se mouvoir dans ce convoi de larmes? Je te dédie ma mort et je sais.
librairie francophone, c'est aussi la diversité musicale. On diffuse tous les genres musicaux francophones. C'était donc Mylène Farmer avec Bleu Noir sur France Inter, la RTS, la RTBF et ici Radio-Canada.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
C'est devant ce gouvernorat, la préfecture de Sidi Bouzid, que tout a commencé. Mohamed Bouazizi, 26 ans, est bachelier, sans emploi. Il vend des fruits et légumes à la sauvette. Mais le 17 décembre, une employée municipale lui confisque sa charrette et sa marchandise. Quelques minutes plus tard, le jeune homme désespéré revient, s'asperge d'essence et allume le feu. Il meurt le 4 janvier dans d'atroces souffrances. Moustapha le connaissait bien, il était son voisin à Sidi Bouzid.
L'histoire de Mohamed Bouazizi, c'est le noyau de la révolution.
Il y a tant de colère, c'était une étincelle.
Laurent Godet est dans la librairie francophone pour sa nouvelle pièce de théâtre qui sortira le 23 mai et les colosses tomberont. Ce que l'on vient d'entendre, c'est ce qui a inspiré votre texte, Laurent.
Absolument, oui, le tout début, c'est ce moment d'avant la colère à plusieurs, ce moment individuel qui est d'ailleurs la première scène de la pièce où quelqu'un qui n'a pas encore ni de prénom ni de nom pour le monde entier va avoir ce geste absolument terrible de s'immoler et puis ensuite le mouvement des peuples brandiront son nom à lui.
Oui, à partir de cet événement, un peu comme dans le roman d'ailleurs de Mohamed Bougarsar avec sa fameuse vidéo, la société tunisienne va basculer et avec elle 7 autres pays du monde arabe.
Oui, absolument. C'est ça qui a été un moment vertigineux, souvenons-nous, hein, cette espèce d'impression que tout d'un coup les pays devenaient des dominos et que chaque jour annonçait une possible révolution. Depuis, évidemment, on a pas mal déchanté et le bilan est extrêmement mitigé. Mais moi, je voulais me concentrer sur ce moment-là, le moment de la prise de parole des peuples.
Oui, vous décrivez ces citoyens, jeunes et vieux, qui quittent toutes leurs habitudes, tous leurs principes comme ça, pour aller manifester dans la rue avec leurs chaussures, avec leurs t-shirts en étendard. On fait vite, simple et déterminé. C'est très rapide, très efficace.
Et puis, en tout cas pour la Tunisie et pour l'Égypte, les femmes sont là. C'est une révolution mixte. Je suis peut-être un peu optimiste, mais je crois que ça ne va pas mourir. C'est-à-dire que les gens qui ont participé aux manifestations il y a 8 ans maintenant ont vécu des moments de mixité où leur mère, leur sœur, leur cousine étaient à leur côté. Et ces jeunes femmes de l'époque ont pris aussi la parole. Mmh. Et ça, je pense que c'est sédimenté et ça renaîtra d'une autre manière.
On a oublié certains pays qui ont été aussi dans les printemps arabes, comme on les appelle. Bahreïn, par exemple, la Jordanie aussi. Mmh. Ils ont essayé les révoltes. Plusieurs pays ont essayé. Alors, ça a fonctionné plus ou moins bien. On va y revenir. Mais en tout cas, c'est une période propice aux premières fois. Oui. D'ailleurs, il y a un monologue comme ça avec « C'est ma première fois. Première fois que je fais ça. Première fois que je fais ci. »
Je pense que c'est ce qui a été aussi le... Il y a un romantisme de ces printemps arabes, ces révolutions arabes. Justement parce que c'est des jeunes gens qui faisaient ça pour la première fois. Alors, en Tunisie, c'est un peu différent parce qu'il y avait une longue tradition de syndicalisme, de combat syndical. Mais on peut quand même imaginer que pour tous ces jeunes gens qui avaient entre 18 et 25 ans, c'était la première fois qui descendait dans la rue, c'était la première fois qu'il hurlait un slogan, c'est la première fois qu'il brandissait une chaussure. C'est pas rien ça, c'est-à-dire c'est ressentir de manière concrète dans son corps, dans sa journée, qu'est-ce que c'est que la liberté.
Ouais. Et ce marchand ambulant qui va s'immoler en temps avant son acte, et c'est ce qui va le décider d'ailleurs, cette fameuse réplique, quand on tente de résister face à l'autorité, dégage. Et ça, c'est un mot qui va être utilisé contre ce que vous appelez les colosses qui tiennent le pouvoir. Dégage.
Ouais, c'est un des slogans de ces révolutions-là, avec aussi Silmiya, pacifique. C'était quand même aussi un mouvement qui se voulait pacifique. Voilà, ça m'a fait penser à la Boétie, à qui j'emprunte ce terme de colosse dans le discours sur la servitude volontaire, où effectivement, il a cette très belle manière de dire, en fait, dans pas mal de cas, il suffit de ne plus les soutenir, ces colosses, pour qu'ils tombent. Pas forcément de les combattre, de cesser de les soutenir. Et je trouve que les révolutions arabes ont donné cette impression-là, qu'au fond, il y avait quelque chose qui était arrivé à maturation et qu'on pouvait juste se pousser et ça allait tomber. Alors, c'est évidemment pas si simple. Et ne serait-ce que l'Égypte a montré que c'était plus compliqué. Et j'en avais parlé avec Ala Al-Souani, le grand écrivain égyptien, qui, lui, a participé aux manifestations de la place Tahrir. Il me disait que ce texte là de la servitude était souvent dans son esprit.
Bon, on va lire un extrait de votre pièce de théâtre. Laurent Godet, c'est une surprise pour vous. Il y a un auteur qui a accepté, qui va lire cet extrait sur la musique magnifique d'Ismaël Lo. Le regarde, vous l'avez déjà vu, vous savez déjà. C'est Mohamed Mougarsar qui est juste à côté de vous. Voici un extrait de « Et les colosses tomberont » signé Laurent Godet.
Que tombent les colosses. Ceux qui ont vu cela en resteront changés pour toujours. Vous avez vu les géants aux pieds de glaise se décomposer, devenir petits, devenir peureux, devenir vieillards. Vous avez vu les peuples danser. Rien ne peut redevenir comme avant. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, d'autres dictateurs viendront. Bien sûr, pour la Syrie, le sang. Pour la Libye, le sang. Bien sûr, le pouvoir écarté, le pouvoir remplacé. Tout ça pour ça, disent déjà certains d'entre vous. Mais quand même, vous avez été libres.
Laurent Godet, voilà pour cet extrait.
Merci beaucoup. Merci
magnifiquement lu. Oui. Et vous écrivez aussi, juste après ça, « Il faudra raconter cela, avoir senti l'histoire ». Qu'est-ce que c'est avoir senti l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je pense que c'est ce qu'on éprouve quand on est traversé par elle. On parle souvent de la littérature engagée. Je pense que ça se joue parfois en sens inverse, c'est-à-dire que les jeunes gens, le peuple de ces moments-là a senti l'histoire prendre possession de leur vie, les pousser dans la rue, organiser leur journée, on allait aux manifestations ou pas. Donc ça, c'est assez rare dans une vie d'homme, ouais, de voir à un moment donné la grande histoire s'inviter dans son quotidien. Je pense qu'on en garde un souvenir jusqu'à la fin de ses jours. On est en train de fêter en France mai 68, regardez comme ça rayonne encore. Et pour ceux qui ont vécu ces journées avec les pavés, etc. Et pour nous, les enfants ou les petits-enfants, on parle encore de l'esprit de 68. Donc,
Pourtant, ça s'est un petit peu délabré, je dirais.
Bien sûr, bien sûr.
Les effets de ces printemps arabes ont été limités, mis à part le départ effectivement de certains, ou même leur assassinat. Hein. Souvenons-nous de Kadhafi. Libye, lynché face caméra. Rien n'a vraiment changé. Certains disent même que c'est pire. Quel est votre point de vue, vous, Laurent Godet?
Il faudrait prendre pays par pays.
Le pouvoir est-il plus fort que la prise de conscience morale et intellectuelle?
Alors ça dépend, si on parle d'un point de vue politique, c'est vrai que par exemple en Égypte, on a l'impression que après un espèce de mouvement de rotation sur 10 ans, finalement on est revenu à la même situation. Mais encore une fois, dire ça, c'est nier l'expérience individuelle qu'ont pu ressentir les Égyptiens qui sont descendus. Et cette chose-là, à mon avis, est un acquis et ressortira. Quand on parle, je fais le parallèle avec le printemps des nations, les révolutions de 1848 en Europe, puisqu'il y a ce mot comme un printemps. 1848, dans certains pays, ça a donné quelque chose. En France, pas particulièrement. Il a fallu attendre encore un peu. 1870, il y a un autre moment comme ça révolutionnaire. Et puis, je pense que l'histoire avec un grand H avance par soubresauts. Il s'est passé quelque chose en 2010 dans les 7 pays dont on parle. Ça reviendra.
Laurent Godet, vous avez participé aussi à un ouvrage collectif sur les migrants, Osons la fraternité, dirigé par Patrick Chamoiseau et Michel Lebris, et qui rassemble 30 grands auteurs. Ce livre est présenté ce week-end à Saint-Malo au festival Étonnant Voyageur. Avant de retrouver Michel Lebris dans le centre de Saint-Malo, je crois qu'il est dans le centre-ville, à proximité de l'océan, un mot sur ce livre?
C'est une grande fierté de faire partie de ce livre-là. Je suis heureux qu'on ait l'occasion là de faire entendre une autre voix à une période où tout se tend beaucoup, où il y a maintenant des milices qui prennent des initiatives absolument improbables et révoltantes dans les Alpes pour essayer de bloquer des migrants. Je pense qu'il est important qu'on fasse entendre aussi une autre voix. La démocratie a droit à cet équilibre-là. Oui. Je pense que la zone européenne est suffisamment forte pour oser la fraternité, hein, une hospitalité d'État à inventer.
Bien. Bonjour Michel Lebris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans la librairie francophone. Le festival Étonnant Voyageur est devenu, comme ça, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour toute la francophonie. Comment expliquez-vous ce succès, Michel, et cette participation hors norme, hein, vraiment, de tous les grands écrivains francophones?
Mon Dieu, je n'en sais rien. Peut-être la conviction qui m'anime et qui anime l'équipe, le rêve de faire vivre cet espace-monde en français. C'était le thème d'un manifeste que nous avions sorti d'ailleurs pour une littérature monde en français il y a 10 ans, que je vois largement repris aujourd'hui, y compris par notre président de la République d'ailleurs, ce qui annonce peut-être une vision différente effectivement de ce qui se joue dans cet espace-là, parce que ça ne concerne pas simplement l'Afrique ou d'autres pays, ça nous concerne nous aussi, la manière dont nous vivons dans cet espace-là, que moi je rêve comme un espace de dialogue sur un pied d'égalité. C'est ce que Vincent rêvait en parlant de mondialité, opposé à la mondialisation d'ailleurs.
Exact,
voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, un grand rassemblement d'auteurs qui se retrouvent autour de ces idées.
Oui, et puis vous avez valorisé aussi les termes de littérature monde, cher à Le Clésio, notamment le prix Nobel, qui est à Saint-Malo d'ailleurs cette année.
Oui, Jean-Marie est là pour les 3 jours. La littérature monde, c'est moi qui ai lancé ce concept en 93 pour dire que Étonnant Voyageur n'était pas un festival de globe-trotter, mais que le concept qui unifiait tout ce que l'on voulait montrer, c'était cette idée d'une littérature dans un rapport d'incandescence avec le monde. Et qu'est-ce que je n'ai pas pris comme engalade à cette époque-là?
Mais il y a beaucoup d'auteurs, Michel, qui vous ont accompagné, qui ont soutenu et qui ont pris à leur compte d'ailleurs la littérature monde. Hein. Tout le monde l'a co-inventé, ce terme-là, finalement.
Oh non, je vais vous dire si
Bon, je vous en montrerai. Bon, juste une chose, Michel, avant de terminer. Juste une chose, c'est vrai que vous ne vous privez pas de faire passer des messages de plus en plus politiques, d'ailleurs, autour des migrants, donc cette année notamment, avec ce livre « Osons la fraternité ».
Ben, est-ce que c'est politique de parler de fraternité? Je n'ai pas le sentiment.
Fraternité, non, mais ce qu'il y a dans le livre, oui.
Ah ben oui, c'est le rappel que nous sommes plus grands que nous, qui a un imaginaire de l'hospitalité à construire dans un moment où on sent un monde qui se rétrécit, où la tentation du repli sur soi, de la peur de l'autre est de plus en plus grande. Il y a à reconstruire effectivement un imaginaire de l'être ensemble et où la littérature a un grand rôle à jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit politique au sens très politicien. Ouais. Je crois juste que c'est une idée plus vaste de l'être humain. On gagne toujours à s'enrichir de la différence avec autrui, je crois.
Bien. Laurent Godet veut vous dire un mot très rapide.
Mais bonjour Michel, d'abord.
Bonjour Laurent.
Heureux de te parler. Non, juste pour reprendre ce mot de politique. Moi, au fond, je me dis que j'aime bien qu'on redécouvre peut-être que écrire des livres, c'est aussi un acte politique. Alors, pas politicien, mais
qu'on l'entend toujours dans un sens, je réagissais parce qu'on l'entend souvent dans un sens péjoratif.
Bien sûr, bien sûr.
Ou alors, entendons-le dans son sens le plus haut.
Dans son sens le plus haut,
c'était ce que je disais.
Et pour dire aussi que la littérature a le droit d'être en colère et que la littérature a le droit d'être subversive, quand on l'a entendu tout à l'heure avec Mohamed, et qu'au fond, ne soyons pas étonnés, lire des livres, c'est pas que pour se divertir. Moi j'aime plutôt bien cette idée-là.
Bon, merci beaucoup, Michel Lebris. Bon festival à vous, Michel.
Merci à vous.
À très bientôt. Merci. Merci bientôt, Laurent Godet. Votre pièce de théâtre et les colosses tomberont sortira mercredi aux éditions Actes Sud Papier. Merci pour votre fidélité indéfectible.
Merci Emmanuel.
Et pour cette avant-première. À bientôt Laurent. Le mot de la fin, c'est pour tous nos libraires. Et pour conclure cette émission cette semaine avec les coups de gueule et les coups de cœur, Josiane Letourneau au Canada, un gros coup de cœur pour vous.
Oui, avec Jacques Godbout et son titre « De l'avantage d'être né ». Alors déjà, le titre qui semble contredire gentiment Cioran et son inconvénient d'être né m'a fait sourire. Et disons-le, m'a séduite, c'est un peu ce qui m'a porté à lire ce livre. Il nous accompagne dans un parcours de vie où il pose les années phares, celles de l'enfance montréalaise et celles qui auront marqué sa vie d'homme, d'auteur et d'acteur social du 20e siècle au Québec. Il a quand même le mérite d'y avoir participé pleinement et d'avoir contribué activement à toutes ces réalisations.
Le grand Jacques Godbout de l'avantage d'être né, c'est paru aux éditions Boréal. Merci Josiane. Dominique Bressou en Suisse, un coup de gueule.
Oui,
ça m'étonne toujours. De votre part, ça m'étonne toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais allez-y.
Écoutez, sur les gens en fait, qui ramènent un livre quelques jours après l'avoir acheté, sous le prétexte qu'on leur a offert le même la veille. Ouais. Et là, moi j'ai une irrépressible envie de leur demander s'ils font pareil en ramenant un gâteau à la pâtisserie du coin parce que les invités en ont amené un, ou s'ils ramènent le bouquet de fleurs chez le fleuriste. En fait, si le livre les tentait au point de l'acheter et que leurs invités ont aussi craqué pourquoi pas tout simplement en faire cadeau à un ami proche, ils sont au moins sûrs de lui faire plaisir.
En fait, vous les soupçonnez de les avoir lus et de vous les ramener, c'est ça? Ouais, c'est ça.
Bien. Rien dit.
Merci Dominique. Annick Dor pour la Belgique. Vous aussi un coup de gueule qui concerne aussi les lecteurs. Vous allez vous faire des amis, c'est bien hein, en tant que libraire d'attaquer les lecteurs. Allez-y.
Pas tous, heureusement. Oui. Un coup de gueule à l'encontre d'un paradoxe, parce que c'est vrai qu'il y a un très grand nombre de lecteurs qui raffolent de romans qui mettent en scène des petits commerces de proximité, que ce soit une petite mercerie, comme dans La liste de mes envies, ou bien une bibliothèque de quartier, comme dans Le mec de la tombe d'à côté. Enfin, il y a plein d'exemples de ce genre-là. Et puis, à contrario, ces lecteurs, bah, parfois, ils achètent leurs livres sur Internet, pensant, à tort évidemment, que les petites librairies sont d'office plus chères que les grosses enseignes ou qu'Internet. Et donc, leur attitude est un petit peu contradictoire, et c'est dommage.
Ouais, ça fait rire Laurent Godet, qui n'achète ses livres que dans les librairies indépendantes.
Absolument.
Ah, c'est bien.
Et depuis 20 ans.
C'est vrai, hein. J'espère que c'est vrai. Hein. Il faut, on le rappelle encore une fois, mais ça fait des années que j'en parle, mais il faut absolument acheter ses livres chez les libraires indépendants, parce que déjà, ils sont pas forcément plus chers. Enfin, en plus, le prix est mesuré, mais ça dépend des pays. Et puis, c'est important parce que ça fait vivre le livre, les auteurs, les rencontres, tout. Ça fait partie du tissu culturel, c'est vital. Mathieu Colombe qui acquiesce pour la France.
Bien sûr.
Un petit coup de cœur.
Pour une fois, oui, soyons pas bégueules. Et on va parler du roman, enfin du polar de Dominique Manotti qui s'appelle Raquette. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un polar économique. Plutôt bien troussé, assez incisif. Non, c'est vraiment très, très, très intéressant. C'est très librement inspiré de l'affaire Alstom.
Ouais.
C'est pas dénué d'une certaine forme d'humour. Il y a une métrique qui est assez parfaite. Et en gros, je suis pas vraiment un aficionado du genre, mais vraiment, une fois qu'on l'a ouvert, c'est pas possible de s'arrêter.
C'est vrai. Oui, parce que c'est vraiment ce que j'allais dire. Et là, je vais me faire des amis encore, mais les polars, souvent, on s'ennuie un petit peu.
Alors là, va falloir arrêter tout de suite. Mais
envoyez vos lettres, vos courriels, et puis les réseaux sociaux, défoulez-vous, je vous en prie.
Mais pour le coup, vraiment, vraiment, c'est excessivement bien fait. Ce serait très, très bête de passer à côté de ça. Surtout si on n'aime pas le genre, vraiment, il faut l'essayer.
D'accord. Bon, alors on va lire ça. Raquette de Dominique Manotti aux éditions Les Arènes. Et c'est un bon polar, selon notre libraire français. Un excellent. Merci Mathieu.
La librairie francophone, Emmanuel Guérald.
Et avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone. Voici l'artiste québécois Bernari avec un extrait de Je pense à toi.
La nuit, je rêve encore. Pardonne-moi si c'est indécent. Saint-Antoine ne m'aidera pas à te retrouver cette fois. Je pense à toi.
Bernari avec Je pense à toi, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Laurent Godet.
Merci Manuel.
Merci Mohamed Mougarsar.
Merci.
Odile Doutremont, merci beaucoup.
Merci.
Saad, à très bientôt. Bonne chance pour votre album. À la réalisation Henri-Marc Mutel avec Ludovic Asselot et Fabrice Desmaz, les deux magiques tirés du pain à la prog musicale. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, le grand voyage francophone continue avec des surprises, de l'étonnement, tout ce qu'il faudra. Merci à vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à travers le monde. Et bon week-end à tous. À bientôt. Salut.